France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
Et dans 15 minutes de plus, j'ai le bonheur de recevoir un amoureux des lettres. Il transmet cette passion pour la littérature russe à nous qui sommes de ce côté-ci de l'Europe. Il est un amoureux également de Pouchkine, dont il publie un dictionnaire ces jours-ci. Un dictionnaire amoureux de Pouchkine chez Plon. Bonjour André Markovitz.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci d'avoir été avec nous ce matin, enfin d'être avec nous ce matin, car vous avez un vrai travail de passeur et c'est un travail extraordinaire que vous faites. Et il n'est pas question que de littérature lorsqu'on parle de traduction et lorsqu'on parle notamment de la traduction d'œuvres qui sont venues du russe. D'abord, une expérience de pensée, parce que c'est comme ça qu'on démarre chaque semaine. L'expérience de pensée, elle est assez simple, finalement. Imaginez qu'on est dans un café en Russie, on est à Saint-Pétersbourg, on se lève et on part sans payer l'addition. Il y a une expression russe dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'elle dit ?
À кто Пушкин заплатит ? Ça veut dire, qui c'est Пушкин qui va payer ?
Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette expression ?
Eh bien, c'est ça qui est intraduisible. Pushkin, c'est à la fois le plus grand poète russe et à la fois personne. Si c'est Pushkin qui va payer, c'est personne.
Oui.
Mais comment imaginer en France que, je ne sais pas, en France, Dante, c'est le plus grand poète italien, mais dire que Dante va payer au café, c'est même pas drôle, ça n'a aucun sens.
En France, on ne parlerait pas non plus de Baudelaire, par exemple.
Mais bien sûr, Racine ne paiera pas, en France, c'est le pape ou Toto. C'est-à-dire que c'est à la fois le rien et le tout. Pushkin, il y a une phrase célèbre, dès le 19e siècle, un critique a dit « Pushkin est un achat-всё, Pushkin, c'est notre tout ».
Notre tout.
Notre tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, personne ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, par exemple, et il y a plein de gens qui sont comme ça, je pense la majorité de la population russe, je ne me souviens pas de moi-même sans Pushkin. Je n'ai pas lu Pushkin dès le début. J'ai entendu Pushkin dit par ma mère, par ma grand-mère, qui elle-même, ma mère l'avait entendu de sa mère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il fait absolument partie de la vie quotidienne.
Vous publiez un dictionnaire amoureux de Pushkin, alors c'est assez fort parce que vous écrivez dans le dictionnaire qu'il est à la fois le plus connu et le plus inconnu des écrivains, le plus connu pour les Russes, le plus inconnu pour eux également. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ?
Le fait que vous posiez cette question prouve que vous êtes un étranger.
Oui.
Voilà, parce que je ne sais pas ce qu'il a de particulier, et personne ne sait ce qu'il a de particulier, mais il est particulier. Il est particulier, pas simplement par l'immensité de son œuvre, par la beauté de ses poèmes. Et par le fait qu'il a posé toutes les questions fondamentales du débat intellectuel de toute la littérature russe, il les a posées en 1820-1830, et en même temps, il y a quelque chose d'autre. Il appartient à l'enfance.
Oui.
À l'enfance de chaque personne.
Russe.
Russe. Qui parle russe comme langue première. C'est-à-dire que dans un pays où le pouvoir est constamment oppressant, où la violence de la vie est absolue, et pas que maintenant, mais tout le temps, il y a pour chaque Russe une espèce d'espace de beauté constant. Qui est ça ? Et puis, voilà, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme.
C'est énorme et c'est quelque chose de très étonnant quand on s'intéresse ou quand on s'interroge sur ce que peut la littérature, sur ce que peut un écrivain, André Markovitz. Vous avez traduit Pushkin, vous lui faites cette magnifique déclaration d'amour, donc dans un long dictionnaire, on en connaît cette collection qui est devenue maintenant un classique, mais il y a aussi Dostoïevski que vous avez traduit, il y a, oui, Tolstoï, qui est incontournable, et quelque chose de commun, un dénominateur commun entre tous ces auteurs, c'est pas dans leur écriture, mais dans ce qui se joue. L'écriture, c'est une question de vie et de mort.
Absolument. Ce qui caractérise, je pense, la littérature russe, c'est l'impossibilité de l'art pour l'art.
Contrairement à une tradition française.
Voilà.
contrairement à Baudelaire ou à d'autres.
Non, Baudelaire, c'est totalement bon, différent.
C'est compliqué, mais...
Tout à fait différent. Non, non, mais oui, il n'y a aucune fascination pour la beauté en elle-même, en dehors de ce qu'elle dit, pour la poésie en tant que poésie. Quand tu écris en russe, en Russie,
oui.
Que ce soit en Russie, en Union soviétique ou dans la Russie poutinienne, tu écris parce que tu ne peux pas ne pas. Et dès lors, les questions qui se posent sont des questions existentielles. Les écrivains que j'essaie de traduire et qu'on essaie de publier, par exemple, maintenant, là, c'est des écrivains qui ont mis leur vie en jeu pour défendre la dignité ou la liberté. Dans un pays impérial, un pays de terreur, il y a les deux ensemble, et ça encore, c'est Pouchkine qui l'a exprimé.
C'est frappant de penser qu'il y a depuis toujours, ou en tout cas depuis Pouchkine peut-être, deux puissances en Russie, l'Empire et le poète. On se dit pourtant que le poète, l'écrivain, c'est ce qu'il y a de plus fragile. On en a encore eu des exemples frappants dans l'actualité. Mais il y a un face-à-face entre le poète et le tsar, que ce soit Nicolas II, que ce soit Staline, absolument, ou que ce soit Vladimir Poutine. La Russie, c'est un pays qui broie ses écrivains ?
Qui broie les gens qui vivent en Russie. Tout le monde.
Oui.
Ce qui se passe en Russie, de tout temps, et maintenant encore plus que jamais, enfin, je ne peux pas dire plus que jamais, parce qu'il n'y a pas la terreur de masse en Russie, il y a la terreur de masse en Ukraine. Mais en Russie, pour l'instant, c'est encore pas ça, mais ça risque d'arriver. C'est une inhumanité totale. Et face à ça, il y a la littérature. Mais Pouchkine a dit ça. Dans un poème sur la naissance de l'Empire russe, Poltava, oui, sur la victoire de Pierre le Grand sur Charles XII, et qui a créé l'Empire russe, en fait, et aussi sur la victoire contre les Cosaques ukrainiens, et donc qui a scellé la fin de l'indépendance ukrainienne. Pouchkine, on a l'impression qu'il fait un hymne à ça, et en fait il écrit « Так тяжким лад, дробя стекло, кует булат », ça veut dire « Ainsi le lourd marteau, brisant le verre, forge l'acier ». Et pourquoi « brisant le verre » ? Et en fait, c'est une référence à un poème très important du XVIIIe siècle, Lomonossov, c'est pas grave,
oui,
qui écrit « Qu'est-ce que... » Un poème sur la nécessité du verre, sur la beauté du verre, parce que le verre, c'est tout fragile, ça n'existe pas dans la nature, c'est une création humaine. Et c'est ça que l'État brise, il brise l'individu. Et celui qui dit ça, c'est le poète.
Le poète, et André Markovitch, vous dites qu'il est impossible de parler de Dostoïevski, de Pouchkine, sans parler de la guerre, sans faire une place à la guerre, faire comme si elle n'existait pas. Et cette guerre, c'est la guerre de Poutine contre l'Ukraine, celle qui a démarré le 24 février 2022. Pourquoi ça ?
Alors, Dostoïevski, c'est un cas encore particulier, hein, parce que Dostoïevski, à la fin de sa vie, surtout, était un nationaliste russe et un antisémite et tout. Mais quelqu'un comme... comment vous dire ? Parce qu'en ce moment, j'écrivais mon dictionnaire.
Oui.
Au moment de la guerre d'Ukraine. Et en même temps, je faisais sur Facebook, et je publie là aux éditions Mesure un livre qui s'appelle « Deux ans de guerre », enfin un an de guerre sur l'année 2022. Cette guerre d'anéantissement d'un pays, d'une histoire que mène Poutine contre l'Ukraine. Et pour moi, il y a les deux. Il y a à la fois...
Ensemble. À la
ensemble.
Fois le travail du traducteur, voilà, qui s'empare d'un livre ou de texte du XVIIIe siècle et l'urgence d'écrire sur
les
ce
deux
qui
ensemble,
est en train de se
pas l'un contre l'autre, mais les deux ensemble. Et très souvent, on me reproche de parler de littérature russe parce que beaucoup de nationalistes ukrainiens, et je combats tous les nationalismes, y compris... Bien sûr, d'abord le nationalisme russe, mais aussi les nationalistes ukrainiens. Et donc, il y a beaucoup de nationalistes ukrainiens qui maintenant haïssent tout ce qui est russe. Et moi, il me semble que c'est une catastrophe, une tragédie. Et c'est ce que j'essaie de dire.
Justement, sur ces textes, sur l'urgence, sur l'époque, sur notre temps, cette semaine, il y avait donc la commémoration des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et ce sont les soldats de l'armée rouge, ce sont les soldats soviétiques qui avaient ouvert les portes du camp. Oui. Mais la Russie de Vladimir Poutine lui-même sont absents de ces commémorations officielles en Pologne. Qu'est-ce que ça suscite? Qu'est-ce que ça provoque comme réflexion chez vous?
C'est naturel et tragique. Naturel parce que...
Naturel.
Naturel. C'est normal que Poutine soit exclu de ces commémorations, parce que Poutine est un fauteur de guerre. Mais ce qui est tragique, c'est que les alliés ne disent pas pourquoi. Que l'essentiel, où est l'essentiel ? Et l'essentiel est que Poutine a exprimé sa doctrine d'invasion de l'Ukraine par l'intermédiaire d'un type qui s'appelle Sergei Yevtsov. Il y a une doctrine Sergei Yevtsov qui est une doctrine d'annihilation d'une population. C'est écrit depuis fin mars 2022.
Oui.
Et c'est exactement, quasiment mot pour mot, argument pour argument, ce que faisaient les Allemands, par exemple vis-à-vis de la Pologne. Pas des Juifs en Pologne, mais des Polonais. Et c'est-à-dire que les nazis, aujourd'hui, ils sont au pouvoir à Moscou.
Lorsque vous écrivez un dictionnaire amoureux de Pouchkine, André Markovitch, c'est pour donner envie de lire Pouchkine, qui n'est pas le plus connu des écrivains russes en France. À quoi ça sert de lire Pouchkine? C'est une question qui a un sens ou pas?
Non.
Non?
Non. Ça n'a pas de sens parce que la littérature ne sert à rien en général et elle sert à tout individuellement. Mais individuellement, personne ne peut en parler puisque c'est une... Mais simplement, moi, je ne peux pas vivre sans puisque j'ai jamais vécu sans. Et toute ma vie a été ça. C'est comme une synthèse de ma vie, ce livre.
Oui.
Vous voyez ? À la fin, j'ai traduit Eugène Onéguine, j'ai traduit plein de poèmes lyriques, j'ai traduit en fait énormément de choses de Pouchkine, et beaucoup plus d'autres. Et c'est, voilà, je suis arrivé à un dictionnaire lyrique. C'est André Comte-Sponville qui disait ça dans une préface au dictionnaire amoureux de Montaigne, que tout dictionnaire amoureux est une œuvre autobiographique.
Forcément.
Bah c'est aussi ça.
Ce sera la morale donc de cette histoire. Merci infiniment André Markovitch d'avoir été l'invité des 15 minutes de plus d'Inter ce vendredi. Je rappelle donc ce dictionnaire amoureux de Pouchkine que vous publiez chez Plon. J'indique également ce roman, le seul qu'il ait écrit d'ailleurs Pouchkine, et que vous avez traduit, La fille du capitaine, qui est un texte important pour le coup, essentiel à
oh
en
oui.
croire ceux qui et celles qui l'ont lu. Merci infiniment André Markovitch.
Merci à vous.